DW. Émission spéciale.
Bonsoir ou bonjour, où que vous soyez, il est 17h en temps universel, 18h à N'Djamena et à Porte Novo, jour de vote au Tchad et au Bénin, dans un climat tendu. Les deux dirigeants, Idriss Déby et Patrice Talon, candidats à cette élection, dont ils sont tous deux grands favoris, leurs opposants ont appelé au boycott. La participation, un des enjeux de ces deux scrutins, retour sur la journée électorale et décryptage avec Gilles Yabi et Baïdessou Soukolgué, nos deux invités à cette édition spéciale. Mais avant, c'est Ali Farhat qui nous fait le point de l'actualité internationale de ce dimanche 11 avril 2021.
Bonsoir Fréjus Kenom, bonsoir Eric Topona, bonsoir à toutes et à tous. En RDC, l'armée congolaise a annoncé samedi avoir tué 5 miliciens dans des combats dans les hauts plateaux de Minembwe, situés à l'est du pays. L'armée invite la population qui a fui en brousse à regagner ses habitations parce que la situation est sous contrôle selon les FARDC. Dans un autre incident, toujours dans les hauts plateaux de Minembwe, des bergers Banyamulenge pourchassant des miliciens qui avaient volé leurs vaches ont été tués lors d'un accrochage avec les FARDC qui étaient également aux trousses de ces miliciens. Au Nigeria, des assaillants non identifiés ont tué 8 mineurs dans l'état de Plateau, dans le centre du pays. Simon Lalong, le gouverneur de l'état de Plateau, a ordonné aux services de sécurité de se lancer à la poursuite des auteurs de l'attaque. Pour rappel, les mines illégales dans le centre et le nord-ouest du Nigeria sont considérées comme une des sources de financement de ces bandes criminelles qui agissent a priori par appât du gain et sans motivation idéologique. Toujours au Nigeria, des djihadistes liés à l'organisation État islamique ont attaqué ce samedi des installations humanitaires à Damasak, une ville du nord-est du pays. L'incendie volontaire du bâtiment d'une ONG s'est propagé à la base de l'ONU. Les locaux de 3 autres ONG ont été détruits. 4 personnes ont perdu la vie dans ces violences, tandis que 4 autres ont été blessées. C'est la deuxième attaque en 2 mois contre une des 9 bases humanitaires des Nations Unies que compte le pays. En Allemagne, Armin Laschet, le leader de la CDU, le parti conservateur, et Markus Söder, le leader de la CSU, le parti conservateur situé en Bavière, s'imaginent tous deux au poste de chancelier fédéral. Lors d'une réunion à huis clos du comité exécutif du groupe parlementaire CDU-CSU à Berlin, les deux hommes ont fait part de leur volonté de se présenter aux élections. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Suite à la réunion, Armin Laschet a déclaré aux journalistes que le soutien des deux partis, CDU et CSU, ainsi que l'unité du bloc conservateur était important car le monde attend de l'Allemagne qu'elle soit stable. Quant à Markus Söder, il a déclaré que sa candidature dépendrait du soutien ou non de la CSU. En Iran, le Parlement accuse le président Hassan Rouhani de bafouer la loi. La raison en est probablement les négociations sur le nucléaire qui se sont tenues à Vienne, en Autriche. Comme le rapporte l'agence de presse iranienne Fars, 190 des 235 membres du Parlement qui étaient présents ont voté en faveur de la destitution du président. Les partisans de la ligne dure et les archi-conservateurs appellent à la démission du président modéré depuis sa victoire aux élections législatives de février 2020. Ils accusent Rouhani de se détourner des objectifs idéologiques de la République islamique. Enfin, la Chine a pour la première fois reconnu publiquement l'efficacité plus faible des vaccins contre le coronavirus développés en République populaire par rapport à d'autres vaccins. Les médias d'État citent Gao Fu, le chef du Centre de contrôle des maladies, qui a déclaré que les autorités devaient réfléchir à la manière de résoudre le problème de cette faible efficacité. Jusqu'à présent, 4 vaccins ont reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché en Chine. Aucun de ces vaccins n'utilise la technologie ARN messager.
DW. Sur la Deutsche Welle, plus de 7 millions d'électeurs au Tchad et 5,5 millions d'électeurs au Bénin étaient attendus aux urnes ce dimanche. 2 scrutins auxquels nous consacrons donc cette édition spéciale d'une heure de temps en studio ici à Bonn. Avec moi, Eric Topona, bonsoir.
Oui, bonsoir Fréjus et bonsoir à toutes et à tous. On commence par le Bénin où on élit un ticket présidentiel, c'est-à-dire un président et son vice-président. Ainsi, Patrice Talon, le président sortant, qui est originaire du Sud, et sa colistière Mariam Chabi Talata du nord du Bénin se présente face à 2 autres duos de candidats. Patrice Talon, qui aura 63 ans en mai prochain, est un riche opérateur économique qui dit proposer un autre modèle démocratique avec des réformes dans plusieurs domaines, dont certaines, comme la charte des partis politiques, ne sont pas apparemment acceptées.
Oui, face donc à Patrice Talon, il y a l'ancien député et ancien ministre Alassane Soumanou en duo avec Paul Rumpé. Alassane Soumanou est âgé de 66 ans, diplômé en gestion des entreprises, ex-collaborateur de l'ancien président Boni Yayi. C'est sa première participation à une présidentielle au Bénin sous la bannière du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE.
Enfin, il y a Corentin Kowé en duo avec Irénée Agossa. Corentin Kowé est un administrateur civil à la retraite et ancien député. Et il se présente en indépendant et il est âgé de 67 ans.
Au Tchad, maintenant, 7 candidats sont en lice là-bas, dont le président Idriss Déby, âgé de 69 ans, dont 30 au pouvoir. Militaire de formation, il a pris le pouvoir en 1991 à la suite d'un coup d'État. Ses opposants, qui ont appelé au boycott, dénoncent un dictateur qui dirige le pays sans partage.
Voilà, Idriss Déby qui a pris le pouvoir en décembre 1990, c'est Fréjus. Et parmi les candidats face à Idriss Déby, Itno, il y a son ancien Premier ministre et ancien député, et il s'appelle Albert Paimi Padaké. Âgé de 55 ans, il est le candidat du Rassemblement National pour la Démocratie au Tchad, le RNDT, le Réveil. Paimi Padaké Albert est aussi originaire de la même région, le Mayo-Kébi Ouest, que le principal opposant tchadien Salé Kebzabo, et c'est sa deuxième participation à une élection présidentielle au Tchad.
Un autre candidat de poids est Félix Nyalbé Roma Dungar, âgé de 64 ans. Ce comptable de profession est à sa première participation et il défend les couleurs d'Alternance 21. C'est une coalition de partis politiques. DW 17h06 en temps universel et vous écoutez une édition spéciale consacrée à la présidentielle au Bénin et au Tchad. Les bureaux de vote sont censés fermer au Tchad à 18h au local, soit 17h temps universel. On fait le constat tout de suite avec notre correspondant Blaise Darustone. Bonsoir Blaise.
Oui, bonsoir Félix, bonsoir Eric Topona.
Blaise Darustone, vous êtes donc à N'Djamena. Comment est-ce que vous décrivez l'ambiance de fin de journée électorale?
Oui, l'ambiance de fin de journée électorale, ce soir, la première chose qu'on observe, les rues qui étaient désertes ce matin sont bondées de monde, les alimentations, les boutiques qui étaient fermées aussi ont rouvert. Actuellement, je suis au quartier à Bénin, dans la commune du 7e arrondissement, précisément dans le carré 29, où sont juste à poser 3 bureaux de vote sur plus de 1000 inscrits. 200 quelques électeurs seulement ont pu voter, d'après les chiffres que les membres du bureau m'ont communiqué. Actuellement, je suis sur le terrain, il y a cela 45 minutes, mais pas plus de 5 électeurs sont venus voter. Les membres du bureau de vote sont en train de s'observer et attendre la fin de la fermeture. Mais contrairement à ce qui a été dit, la fermeture a été prolongée pour 18h30. Donc on a encore 20 et quelques minutes pour le vote.
Et ça, c'est l'ambiance donc, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Eric, vous avez joint Abderrahim Awad Talbouri dans le courant de la journée. Il est à Abéché, il est enseignant. Et à Abéché, il nous dit que l'affluence n'a pas été très forte non plus.
Le taux de participation, il est très faible. Il y a des lieux où tu trouves un seul votant qui est là et puis il y a d'autres où il y a 5-6. Certes, dans certaines zones, il y a le nombre de femmes qui vont voir 15, 16, parfois 20 femmes. Tout est fait pour que le candidat du MPS passe au premier tour.
Voilà, c'était donc un habitant d'Abéché, à l'est donc du Tchad. Et eux, ils voudraient bien voter, Fréjus, mais ils ne l'ont pas pu. Et je vais parler donc des Tchadiens de la diaspora. J'ai joint Takilal Ndolassem, c'est un activiste et communicant tchadien qui vit à Paris.
Mais nous sommes très déçus parce que c'est pas normal. Normalement même, dans la Constitution, ils avaient même dit qu'on allait avoir des députés de la diaspora. Finalement, en sachant qu'ils sont en minorité, ils ont annulé. Personne ne vote parce qu'ils savent qu'ils sont en minorité. Mais tout ça, ça va finir bientôt et on va passer à d'autres choses plus sérieuses.
Blaise Darustone, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez également assisté au vote du président de la République sortant, Idriss Déby. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui a frappé l'esprit dans sa déclaration?
Oui, Idriss Déby, ce matin, après avoir voté en compagnie de son épouse ce matin, a déploré le fait que certains candidats qui se sont retirés ont appelé au boycott de cette élection. Il a donc demandé aux électeurs de sortir activement pour voter, élire qui ils ou elles veulent pour présider à la destinée du pays.
Merci beaucoup Blaise Darustone, vous étiez de N'Djamena et nous allons vous retrouver tout à l'heure donc en fin d'édition pour nous donner quelques dernières informations sur la journée électorale donc au Tchad.
Alors les Tchadiens, on l'a dit avec Blaise Darustone, ont voté ce dimanche à l'occasion donc de cette élection présidentielle, même si l'affluence a été très faible. Et le maréchal président, Idriss Déby Itno Big, un sixième mandat de 6 ans, Anne Le Touzé nous fait une brève présentation de ce pays du Sahel, le Tchad.
Comme la plupart des ex-colonies françaises, le Tchad a accédé le 11 août 1960 à la souveraineté nationale et internationale. Mais l'histoire politique des 4 dernières décennies de ce vaste territoire de près de 16 millions d'habitants a été émaillée par de nombreux coups d'État et autres tentatives de déstabilisation. Le pouvoir s'est toujours transmis par les armes. Le 13 avril 1972, François Tombalbaye, le tout premier président, est assassiné lors d'un coup d'État militaire. 8 ans plus tard, la guerre civile sape les fondements sociopolitiques du pays et manque de compromettre son existence en tant que nation. En Afrique subsaharienne, le Tchad est l'un des pays qui ont connu le plus de coups d'État réussis ou avortés, créant une situation d'instabilité politique permanente. Comme dans la quasi-totalité des États africains contemporains, le pluralisme politique existe au Tchad et des élections ont lieu de manière régulière. Mais dans la pratique, les Tchadiens vivent sous le joug d'un régime rétif à toute critique et qui n'hésite pas à réprimer dans le sang toute velléité de contestation. Militaire de formation arrivé au pouvoir en 1990, après avoir renversé la dictature d'Hissène Habré, l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno, règne en maître dans le pays, grâce notamment au soutien politique et militaire de la France, qui le considère comme un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Depuis 2003, le pays exporte du pétrole, mais la manne pétrolière profite en grande partie à la minorité au pouvoir, selon l'opposition et la société civile, qui indique que les pétrodollars ont permis au régime d'acheter des armes pour faire face aux différentes rébellions qui ont tenté de le renverser. En dépit de son statut de pays producteur d'or noir, le Tchad demeure parmi les 5 pays les plus pauvres au monde, à la 187e place sur 189 de l'indice de développement humain du PNUD.
C'est un défi de parler du vaste Tchad en quelques secondes, disons une minute, quelques secondes. De N'Djamena à Cotonou, il faut, Eric, parcourir au moins 2000 kilomètres.
Et effectivement, et pour y rejoindre nos correspondants qui sont sur place. Et c'est d'abord Claire Stéphane Sacramento qui est en ligne avec nous. Bonsoir Claire.
Bonsoir Eric Toponan, bonsoir Fréjus Kenan.
Alors vous vous trouvez donc actuellement à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire la situation au terme de cette journée électorale qui devrait en principe durer officiellement 9 heures?
Oui, Eric Toponan, justement, depuis 7h du matin déjà, la plupart des bureaux de vote au sud du Bénin ont ouvert comme prévu à 7h. Voilà. En général, jusqu'à présent, les opérations se déroulent dans le calme et la sérénité. On note par certains endroits qu'il y a très peu d'engouement de la part des citoyens, ce qui se traduit par le peu d'affluence qu'on a observé jusqu'ici. Ceci dit, le schéma n'est pas le même sur tout le territoire national. Dans le nord, principalement, on note une timide participation des populations à cette présidentielle, et précisément dans la commune de Tchaourou, qui est le fief de l'ancien chef de l'État, Thomas Boniaï. Le matériel électoral n'a pas pu être réceptionné, et donc le vote n'a pu avoir lieu jusqu'à présent. En tout cas, jusqu'à la mi-journée, il n'y avait pas le démarrage du vote, parce que déjà, le matériel n'a pas été réceptionné. On note également que la zone enregistre des violences depuis le 6 avril dernier, date à laquelle des citoyens ont commencé à manifester pour exiger la fin du mandat de l'actuel chef d'État béninois. Et aux dernières nouvelles, les tirs s'y poursuivent, voilà, et la situation de blocage s'étend également à d'autres communes comme Savé, comme Bonté. Donc c'est un peu la situation au terme de cette journée. Donc le vote continue, puisque en dehors des arrondissements situés au sud du Bénin, plus au centre et dans le nord, il y a eu beaucoup de perturbations. Il y a l'élection justement dans quelques communes du nord. Mais les opérations ont commencé par endroits très tardivement, même jusqu'à 11 heures.
Ce qui justifie que le vote se poursuive encore actuellement.
Exactement.
Claire Stéphane,
exactement.
Merci beaucoup. On vous retrouve éventuellement plus tard dans cette édition. C'est toute activité cessante. Si vous avez des informations importantes, vous avez évoqué la ville de Savay, Éric Topona. C'est la région, c'est une des régions qui ont connu des tensions ces derniers jours avec au moins deux morts et plusieurs blessés, y compris parmi les forces de sécurité. Et nous avons pu avoir le maire de cette localité.
Exactement, le maire donc de la localité de Savay que je vous propose d'écouter.
La ville est presque tout est calme, pas de circulation. Les gens sont terrés dans leur maison. La majorité a déjà fui la ville. Dans la commune, il y a trois arrondissements urbains. Là, ça ne marche pratiquement pas.
Voilà, c'était donc le maire de la ville de Savay.
Denis Obachabi, bien
voilà,
sûr.
Voilà, tout à fait. Voilà, le Bénin est en effet le premier pays en Afrique à avoir organisé les conférences nationales. C'était en 1990. Un événement qui a conduit au renouveau démocratique. Un portrait du Bénin signé Bob Barry.
Avant le retour de la démocratie en 1990, le Bénin a été longtemps l'un des enfants malades de l'Afrique. Dès le début des années 1960, le Dahomey d'alors enregistre de nombreux coups d'État. Preuve des dissensions entre les politiques, un conseil présidentiel de trois membres est installé en mai 70. À chacun des membres de diriger cet organe pendant deux ans. C'est ce qu'on a appelé le monstre à trois têtes. Le général Mathieu Kérékou y met fin en octobre 1972 et marque le début de deux décennies d'une période révolutionnaire caractérisée par le parti unique. Le Bénin est aussi connu mondialement pour son culte vaudou. Les villes de Ouida, Abomey, Porto Novo et d'autres encore célèbre chaque 10 janvier une fête nationale, la fête des religions endogènes, déclarée jour férié et chômé. La diversité culturelle du Bénin s'ajoute à une diversité culturelle et multiethnique, une culture que vend si bien à l'extérieur la diva de la musique béninoise Angélique Kidjo avec ses 4 Grammy Awards. Mais c'est loin du quartier latin de l'Afrique, Angélique Kidjo rayonne pourtant au point que certains la verraient en politique dans cette ancienne colonie française de 11 millions d'habitants situés entre le géant nigérien avec ses 200 millions d'habitants, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Le port de Cotonou est le poumon de son économie. Le pays peut aussi compter sur les recettes issues du coton avec des records de production ces dernières années sous la présidence de Patrice Talon qui a fait d'ailleurs fortune dans l'or blanc.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Voilà, et nous retrouvons à présent nos invités. Baïdessou Soukolgué, expert de l'Institut électoral pour la démocratie durable basé en Afrique du Sud. Mais monsieur Soukolgué, vous êtes actuellement au Bénin. Bonjour.
Je suis effectivement au Bénin.
Voilà. Bonjour, monsieur Soukolgué. Merci d'être avec nous. On nous signale en ce moment, Eric, que notre second expert, Gilles Yabi, n'est pas présent. Mais dites-nous qui est Gilles Yabi, très bien.
Gilles Yabi, c'est un chercheur bien connu par nos auditeurs. Il est docteur et il est fondateur donc du think tank Wati, basé à Dakar, au Sénégal.
Voilà, Eric, vous avez la chance. Docteur Gilles Yabi vient de se signaler. Il est là.
Maintenant. Ah, voilà. Bonjour, docteur Gilles Yabi.
Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien.
Ben oui, on vous entend très bien. Merci. Merci d'être là.
Je vous en prie.
Alors, première question, Gilles Yabi, votre structure Wati a, comme d'habitude, mis en place un site internet dédié à la présidentielle au Tchad. Quels sont, selon vous, les enjeux de cette présidentielle qui, on le rappelle, est boycottée par les principales figures de l'opposition tchadienne?
Alors, je dois dire que ce qu'on essaie de faire effectivement à Wati, c'est de donner du sens aux élections qui ont lieu dans les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, et le Tchad en fait partie. Mais je dois dire aussi qu'on a beaucoup de mal à faire ce travail en sachant que les conditions politiques pour des élections qui aient du sens, justement, ne sont pas réunies dans beaucoup de cas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a au Tchad, de manière quasiment traditionnelle, une élection où il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes de résultats. le candidat maréchal président est en place depuis 30 ans. Personne n'imagine qu'on aura une surprise au
oui,
terme
mais Gilles
de cette
Yabi,
élection.
On l'a noté à travers donc, notre correspondant sur place, Blaise Daruston, que les Tchadiens ne se sont pas mobilisés voilà, ce matin. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour le président Déby?
Oui, on attendra le chiffre officiel de la participation, sachant que même à ce niveau-là, on peut tout à fait imaginer que le chiffre officiel soit différent de la réalité de la participation qui semble très faible. Ce que je veux dire, c'est que des aveux, je ne pense pas dans la mesure où il ne s'agirait pas à nouveau d'une surprise ni d'une nouveauté. On a toutes les élections qui ont lieu dans le pays depuis trois décennies, finalement, n'ont jamais été réellement compétitives et crédible. Et donc, manifestement, même s'il y a un désaveu, ça ne va rien changer dans la pratique du pouvoir tchadien.
Gilles Yabi, restez en ligne avec nous. Vous êtes avec Baïdessou Soukolgué, expert de l'Institut pour la démocratie durable. Monsieur Soukolgué, au Tchad comme au Bénin, les autorités ont procédé à des arrestations après avoir évoqué des tentatives de sabotage du processus électoral. Est-ce qu'il s'agit d'invention ou y a-t-il effectivement eu des intentions de nuire ?
La question mérite d'être posée maintenant, quant à dire s'il s'agit d'un montage ou d'un complot réel, il y a lieu d'être prudent. Ce qui est vrai, c'est qu'en ce qui concerne le Tchad, l'opposition a fait part de son intention de boycotter activement les élections. Or, un boycott actif induirait de la part des partisans de l'opposition peut-être une descente dans les bureaux pour essayer de détruire du matériel ou empêcher que le vote ait lieu, ce qui semble être le cas dans quelques coins du pays. On a vu la même chose également au Bénin, avec le centre du pays qui a été coupé et donc qui a coupé en réalité le sud et le nord du pays. Et même la commission électorale a eu du mal à déployer le matériel.
Le matériel électoral, oui.
Voilà, les forces de sécurité que nous avons eues dans les différents briefings nous indiquaient justement qu'il était imprudent d'aller au-delà du centre du pays. Voilà, et donc une occasion certainement dont se saisira les autorités de part et d'autre pour essayer de museler davantage l'opposition qui est déjà très mal au point dans ces deux pays.
Mais est-ce que l'opposition n'a pas remporté la bataille, si on peut le dire ainsi, avec ce faible taux de participation?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la participation, c'était l'enjeu principal parce qu'il ne faisait aucun doute qu'au Tchad comme au Bénin, les candidats sortants allaient l'emporter. Et la participation était donc le principal enjeu. De ce que je sais, de ce qu'il s'est passé au Tchad, que ce soit dans la zone méridionale ou à N'Djamena, ou même à l'est du pays, dans les grands centres urbains en tout cas, et ici au Bénin, partout où je me suis promené, il n'y a pas eu d'engouement. À la mi-journée, vous avez à peine une dizaine de personnes pour certains bureaux. À l'après-midi, c'était la même chose. Et comme Gilles le disait tout à l'heure, nous avons la réalité du terrain. Mais nous avons aussi que dans nos deux pays, dans ces deux pays, il n'y a que la commission électorale qui puisse donner les chiffres officiels.
Oui, encore que cette commission électorale, au Tchad notamment, est décriée par l'opposition. Alors, Gilles Yabi, peu d'engouement des électeurs au Tchad et au Bénin. Est-ce que le parcours politique de ces deux pays, le Tchad et le Bénin, est-il pour autant comparable? Gilles Yabi? Ah, nous avons perdu.
Est-ce que M. Gilles Yabi, vous nous entendez? Docteur Gilles Yabi, fondateur du think tank citoyen Wati. Donc la question, c'était donc de voir, on est en train d'analyser cette journée électorale au Tchad et au Bénin. Apparemment, nous avons donc quelques problèmes de liaison avec Gilles Yabi. Voilà, donc est-ce que pour autant, le parcours politique du Tchad et du Bénin, on est obligé de comparer un peu ces deux pays qui votent aujourd'hui? Est-ce que leur parcours est quand même comparable?
Alors, je vous ai perdu un moment, mais j'ai bien compris la question. Je crois que ce qui est paradoxal, c'est aujourd'hui de poser la question de la comparaison et d'avoir plusieurs éléments, finalement, de cette élection qui sont comparables en termes de situation, en termes de perception d'élection sans enjeu, en tout cas quant aux résultats. Mais la réalité, c'est que les histoires politiques de ces deux pays sont très différentes. Je crois que dans la présentation des deux pays, votre collègue indiquait tout à l'heure l'histoire mouvementée de coup d'État au Tchad et finalement le fait qu'on a toujours eu des changements de pouvoir par la force. Alors qu'au Bénin, il y a eu des épisodes extrêmement troublés également, mais depuis, disons, la conférence nationale qui a suivi le long règne de Mathieu Kérékou, on a une alternance régulière démocratique et le Bénin fait partie, disons, des quatre, cinq pays d'Afrique les plus avancés en termes d'établissement, de construction d'une démocratie et de l'état de droit. Et cette élection cette année souligne une régression très claire, en tout cas, dans ces deux domaines-là, de la démocratie et de l'état de droit, et finalement rapproche le Bénin, je dois dire, de manière assez spectaculaire, aujourd'hui du Tchad, même si à nouveau les histoires politiques sont différentes.
Oui, et parlant du Tchad, Gil Yabi, les principales figures de l'opposition ont décidé donc de boycotter ce scrutin. Est-ce que vous estimez que le boycott est une stratégie?
Je vous entends très très mal.
Gil Yabi, ouais. vous nous entendez?
On va peut-être élever légèrement la voix pour voir si Monsieur Gil Yabi, vous nous recevez. Est-ce que vous pensez que le boycott auquel les opposants ont appelé leurs concitoyens, du moins en parlant du Tchad, est-ce que vous croyez que la stratégie du boycott est une stratégie qui est porteuse?
Si, je crois que les contextes généralement sont différents en fonction des pays, en fonction des moments, et parfois le boycott peut être une mauvaise stratégie et parfois ça peut être une bonne stratégie. Mais je dois dire que lorsque les conditions ne sont absolument pas réunies pour des élections qui soient compétitives, donc où il y a une réelle chance que le résultat reflète le vote des électeurs, je peux comprendre que les acteurs politiques décident de ne pas y aller. Hein. Une élection, ça coûte des ressources importantes. Et donc, si vous allez à une élection en sachant que vous n'avez aucune garantie sur la sincérité du résultat, sur la crédibilité du processus électoral, sur la crédibilité des institutions qui sont engagées dans ce processus électoral, ça veut dire que vous êtes prêt finalement à gaspiller des ressources à nouveau qui sont rares pour aller à ces élections. Et donc, je peux comprendre, dans le cas tchadien notamment, que des acteurs politiques de l'opposition aient choisi la stratégie du boycott. En plus, il y a eu des violences quand même importantes avant cette élection et qui peuvent, disons, montrer à nouveau qu'on n'est pas du tout dans un contexte qui soit favorable à l'expression d'un vote démocratique.
Mais Monsieur Baïdé Soussou-Kolgué, un mot rapidement donc de la stratégie du boycott, parce qu'au Bénin aussi, les opposants ont demandé à ce qu'on arrête le processus pour d'abord discuter et ensuite ils ont appelé à ne pas aller voter.
Ce qu'il faudrait déjà retenir, c'est que sur le principe, le boycott n'a jamais payé en politique. La politique de la chaise vide profite toujours à celui qui est au pouvoir. Mais dans les deux pays, le Tchad et le Bénin, donc, l'opposition s'est retrouvée dans une situation différente peut-être, mais où le boycott était finalement la seule option qui lui restait. Au Tchad, nous le savons, l'espace politique, le jeu démocratique sont comprimés depuis 2016. Certainement que l'élection présidentielle de 2016 a été celle qui, de mon point de vue, a été la plus compétitive, où le président, voyant la forte mobilisation de l'opposition sur le terrain, a très certainement pris peur, là il faudrait le dire,
et a commencé à faire. Il y a eu plus d'une trentaine de candidats au premier tour. Ouais.
Plus d'une trentaine de candidats, mais il y avait un challenger, Kebzabo, qui mobilisait des foules et qui avait laissé espérer justement une alternance. Et depuis ces élections, le jeu politique est progressivement comprimé, les rues sont militarisées, l'opposition ne pouvait plus tenir une quelconque activité au niveau de la capitale, notamment, qui est ajouté à la pandémie et qui est devenu finalement un argument politique pour le pouvoir. En ce qui concerne le Bénin, l'opposition s'est retrouvée dans cette situation du fait de la réforme qui a été instituer cette réforme qui veut que tout candidat puisse être endossé par un certain nombre d'élus.
Ouais, 16,
mais l'opposition n'ayant pas d'élus à l'Assemblée nationale et n'ayant que le contrôle de 6 communes sur l'ensemble des communes du pays, ne pouvait pas être présente à ces élections.
Monsieur Baïdessou, monsieur Soukolgué, oui. Si vous permettez, on marque oui. une pause. Ne quittez pas, ne quittez surtout pas, gardez la ligne. On marque une courte pause. Ça va être la demi-heure, donc la 17h30 en temps universel. Et on vous retrouve avec Gilles Gabi dans quelques secondes. Le temps pour nous de souffler en musique avec Mounira Michala du Tchad, Taloulena, un appel à la paix et à l'union.
Bakan wajabole kumranga wajabole gombo wajabole kawal wa asida talushufu halawa balanna dunia tafar